Claude Askolovitch, on parle de mafia ce matin.
Et on parle de crime juste à côté de nous. Et Libération raconte qu'au début de ce mois, dans un tramway sur la Canebière, soudain un homme a sorti un couteau pour se précipiter sur un autre. « Il a un couteau, putain !» criait une dame à une maman dont la poussette l'empêchait de se sauver. On avait vu pire il y a un an quand 50 personnes avaient attaqué un centre pour réfugiés avec couteau et machette. Voilà les bérets bleus, confréries mafieuses venues du Nigeria. Ils rackettent ces hommes, leurs compatriotes demandeurs d'asile, qu'ils ont aidés à venir ici, mais qu'ils forcent à vendre de la drogue. La Cosa Nostra, la mafia sicilienne, leur aurait déjà confié des marchés de l'héroïne. Ils ont simplement demandé, les Siciliens, aux Nigérians, de ne pas porter d'armes à feu, d'où les couteaux. Logique, c'est donc chez nous aussi, dit Libération. Mais la France serait passive, car la police ne sait pas entendre les migrants qui se rebellent. Témoignage d'un avocat, Maître Gioia, qui a des Nigérians rackettés. J'ai vu une scène hallucinante où une victime ensanglantée, avec dans sa main la drogue qu'elle ne voulait pas vendre, est entrée dans le commissariat et s'est retrouvée face à un policier qui a refusé de prendre sa déposition. On parle de mafia et d'impunité aussi en Corse, où un homme est mort le 12 septembre dernier, mort sans doute d'avoir refusé de subir des truands. Il s'appelait Maxime Susini, Massimu, disent ses amis, qui se réunissaient hier, 800 personnes à l'université de Corte. C'est dans le Figaro, dans le Parisien, dans Corse ce matin évidemment, et sur le web dans CorseNet Info. Massimu, dit son oncle, a été assassiné par la mafia. Il se savait menacé, il s'est opposé physiquement à une bande de dealers attachée à une autre bande qui sévit à Ajaccio. Pour autant, il n'était pas armé, lui refusait de vivre comme un voyou. Maxime Orsoni était proche des mouvements nationalistes et sa mort provoque une tempête politique. Le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, a envoyé un message à Corte. Seule la démocratie peut sauver la Corse de cette spirale infernale. Mais hier, on a aussi cité Gandhi sur cette phrase surprenante. Là où il y a le choix qu'entre la lâcheté et la violence, je vous conseillerais la violence.
On parle d'un homme de mauvaise humeur ce matin.
Qui regarde, on en parlait. Son pays portait le deuil de Jacques Chirac avec le sentiment d'un mensonge national. Ainsi titre Éric Le Boucher sa chronique dans L'Opinion. Lui ne supporte plus les concerts de Guimauve sur l'homme Chirac. Sympa, français, bouffeur, blagueur, dragueur. Non, Jacques Chirac a incarné une France, oui, mais une France d'inculture économique, dit-il. Et il aurait été, par son refus des réformes, le plus mauvais président de la 5e. Vendredi dernier, dans Slate, notre bossuet fâché avait déjà accusé Jacques Chirac d'avoir fait du mal à la France et à l'Europe. Il s'en excusait auprès de la famille. Le week-end n'a pas apaisé ce libéral excédé et L'Opinion est sur sa ligne. Je cite l'éditorial, en pleurant Chirac, nous nous apitoyons sur nos ambitions perdues. Est-ce malvenu ou est-il bon de voir des gens qui pensent sans se soumettre? Dans Libération, un philosophe, Frédéric Worms, s'étonne du nouveau mot-clé des révoltes. Un « ça suffit » planétaire que lui-même partage, qu'on entend sur le climat, sur Hong Kong, sur un fêtard noyé à Nantes. Mais dans ce « ça suffit », Worms voit un besoin de règles et de justice. Des règles donc, oui, on en manque. Le Républicain Lorrain raconte ces soldats qui désertent. Ils ont été appâtés par des campagnes publicitaires et ne supportent plus la réalité, l'angoisse, la médiocrité de l'opération Sentinelle. Paris Normandie, mais sur le grill, le patron de cette usine qui a brûlé jeudi et dont la fumée noire fait douter la Normandie. Dans Ouest-France, en Normandie encore, dans le Calvados, une histoire de campagne. Des sangliers hybrides croisés de cochons asiatiques se sont sauvés d'un élevage clandestin illégal et ravagent des cultures. Le terrain appartient à une société de chasse qui jure que ce sont les blaireaux les coupables. À propos de porc, dans le Figaro, une chroniqueuse, Eugénie Bastier, se réjouit de la victoire en justice du premier homme français qui avait été désigné comme un porc, car cette victoire serait celle de l'état de droit contre les condamnations sans jugement des réseaux sociaux. Sur le féminisme, tout peut se débattre et Leslie Claire nous rappelle heureusement d'un vieux fait divers que jadis on prenait en pitié, l'homme impuissant trompé qui poignardait sa femme et sa fille. Mais sur les réseaux sociaux, chacun suivra Madame Bastier, il rend idiot. Dans le Parisien, je lis qu'un monsieur dont je tairai le nom, président des Amis du Palais de Tokyo, fleuron de l'art moderne et contemporain, s'est énervé sur Facebook contre la jeune Emma Thunberg jusqu'à écrire ceci. J'espère qu'un désaccès va l'abattre. Le Palais de Tokyo cherche un nouveau président pour ses amis.
Et on termine avec des tulipes de paix.
Mais qui ont été sujet de disputes, ces tulipes géantes qui ont enfin orné un jardin parisien, inventé par James Koontz, dont les œuvres coûtent un bras, pour partager notre deuil après les attentats de 2015. L'histoire est dans Le Monde et dans Le Figaro, où Jeff Koontz me jure que l'argent n'est pas son sujet. Je vois, dans La Voix du Nord, de vieilles montres sublimes qu'on a montrées à Lille et notamment un bijou, Genevois, de 1640, signé d'un ancêtre Jean-Jacques Rousseau. Une montre en forme de croix qu'on portait autour du cou pour contourner l'interdit des bijoux qu'avaient décrété les protestants rigoristes qui gouvernaient la ville de Genève. J'en termine avec une beauté venue du passé. Dans le magazine breton, on me parle de trois femmes qui, il y a un demi-siècle, chantaient en robe noire, collerette et bonnet blanc brodé. Elles étaient les sœurs Goadec. Elles avaient appris l'art du chant breton par leur maman couturière, car les couturières chantent pour ne pas perdre le fil. Elles furent vedettes de la scène folk et elles apprirent à Alan Stivelle tout ce qu'il devait savoir. J'ai retrouvé leur voix.
Merci Claude pour cette revue de presse.